à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce rendez-vous des élèves si ça vous va. Donc on est très heureuse aujourd'hui de pouvoir avoir ce temps pour échanger sur la question de l'écoféminisme. Donc ce rendez-vous des élèves sera animé par Inès, donc, qui est élève ingénieure en chef en ce moment à l'INET, et donc par moi-même qui suis élève administratrice territoriale, à l'INET également donc. Donc notre échange du jour porte sur une étude qui a été réalisée l'an dernier par un groupe d'élèves de la promotion Hubertine Auclair, donc une promotion d'élèves administrateurs. L'étude était intitulée « L'écoféminisme a-t-il sa place dans les collectivités territoriales ?» et donc cette étude était supervisée par la ATF, donc avec Françoise Bellet et Estelle Jung, que l'on remercie pour cet accompagnement. Et donc les élèves qui participaient à cette étude étaient donc Eve Albergel, qui est ici présente avec nous pour en discuter aujourd'hui, Lorraine Amic, Victor André et Cécile Tavant. Et pour un petit peu ouvrir les perspectives sur, autour de cette étude, nous avons également le plaisir d'accueillir Stéphanie Portier, qui est vice-présidente de Dirigeantes et Territoires, déléguée à l'Observatoire, et par ailleurs directrice générale déléguée à Montpellier Ville et Métropole, et qui a suivi le cycle supérieur de la transition cette année, me semble-t-il, en 2023-2024. J'ai brièvement laissé la parole à Françoise Bellet, qui souhaitait donc dire un mot de ce partenariat entre la ATF et les élèves de l'INET. Oui.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Françoise Bellet, je suis la déléguée nationale à l'égalité professionnelle de la ATF. L'ATF, donc, c'est une association transversale. Nous travaillons aussi sur la transition écologique avec Estelle Jung et aussi sur d'autres thématiques. Et je voudrais féliciter Eve et son groupe d'élèves aussi, qui a vraiment fait un travail remarquable, qui a déjà été présenté au congrès de Metz en juillet dernier, et insister sur le fait que nous faisons un travail régulier chaque année à l'ATF, dans ma délégation, avec des élèves. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, nous avons fait un travail sur les dirigeantes territoriales, un travail d'enquête. Il y a un premier travail, d'ailleurs piloté par Estelle, sur les plans d'action. Et là, nous retravaillons avec la nouvelle promotion à un projet pour cette année qui est en cours d'élaboration. Donc, merci vraiment, bravo pour le travail qui est fait. Et donc, nous poursuivons cette action. Et si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus dans notre groupe de travail. Merci beaucoup. Merci, Mandine.
Merci beaucoup, Françoise.
Merci beaucoup, Françoise. Donc, moi, je vais prendre le relais pour présenter dans les grandes lignes cette étude, qu'on ait un peu tous le même niveau d'information. Les 2 questions soulevées par l'étude, c'était d'abord, quelle est la représentation des femmes aux fonctions de décision sur le sujet de la transition écologique dans les collectivités ? Voilà, est-ce qu'elles sont au poste de DGA transition ou pas ? Et la deuxième, c'était est-ce que les politiques environnementales ont un impact différencié sur les femmes et les hommes et comment on fait le lien entre égalité femmes-hommes et transition écologique. D'abord, quelques chiffres pour situer. Les femmes sont plus impactées par le changement climatique que les hommes. Elles ont plus de chances de mourir dans une catastrophe naturelle, 14% de chances de plus. Quand il y a des événements climatiques extrêmes, le nombre de mariages forcés, de violences conjugales, de déscolarisation des femmes augmente. Et donc, ce sont les premières en ligne pour les catastrophes climatiques extrêmes et pour le changement climatique en général. De plus, toutes les adaptations des habitudes quotidiennes que demande le changement climatique, la hausse des températures, la montée des eaux, etc., impactent d'abord les femmes. Ceci étant dit, dans nos collectivités territoriales en France, les fonctions de stratégiques liées à la transition écologique sont très peu féminisées. On observe, selon l'étude, 30% de femmes au poste de DGA transition, par exemple, et donc avec des effets de filière très forts parce que les politiques publiques de transition écologique sont avant tout portées par les filières techniques, qui sont de base des filières peu féminines. Et même une fois qu'on met en place les politiques publiques de transition écologique, il y a des impacts sur l'égalité femmes-hommes et sur certaines discriminations. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'éclairage public. Sur la transition environnementale, on nous dit qu'il faut l'éteindre la nuit. Pourtant, ça développe le sentiment de sécurité. Donc, comment on fait pour concilier les deux et faire en sorte que les politiques de transition n'impactent pas les politiques d'égalité femmes-hommes ? Donc c'est un peu toutes ces questions que soulevait l'étude. Et ce qu'on voulait échanger ici, c'est comment est-ce qu'on réduit ces écarts de féminisation dans les postes liés à la transition écologique et comment on fait pour lier les politiques de transition écologique et les politiques d'égalité femmes-hommes pour que celles-ci se complètent, pour bosser en transversalité et pas en confrontation. Donc peut-être une première question à Stéphanie, ces chiffres de féminisation très faibles des postes de DGA de transition, comment ils font écho aux constats quantitatifs que vous menez avec Dirigeantes et Territoires? Peut-être expliquer le travail de l'Observatoire de Dirigeantes et Territoires et voilà, comment ça fait lien avec ce que vous avez observé.
Merci. Tout d'abord, je voulais remercier les élèves de nous avoir associés, Dirigeantes et Territoires, aujourd'hui à ce partage et à cet échange. À titre personnel, c'est un sujet qui me parle beaucoup, de par ma casquette associative, mais aussi parce que j'ai suivi le CST. Donc voilà, je recommande de suivre ce cycle sur la transition qui est vraiment passionnant, proposé par l'INET et aussi des cycles qui sont proposés dans les INSET. Donc effectivement, Dirigeantes et Territoires publient des données depuis 2022. Donc annuellement, on publiait des données en lien par exemple avec le dispositif de nomination équilibrée pour justement mettre en exergue le plafond de verre. Parce que le chiffre qui vient d'être cité porte sur les postes de DGA, mais je vais un peu vous abreuver de chiffres et j'en suis désolée. Mais on peut constater qu'aujourd'hui, il y a encore un problème d'accès des femmes aux fonctions de responsabilité. Et vous le verrez, on n'a que 24% des femmes, des DGS qui sont des femmes aujourd'hui. Donc l'idée de présenter ces chiffres, c'était de mettre en perspective l'étude qui est très bien faite par les élèves et de vous donner quelques autres données. Et donc cette année, en 2024, grâce à notre partenaire Reliance qui est ici présent dans la salle, Dirigeantes et Territoires a publié un observatoire très complet. Donc vous aurez un QR code à la fin et je vous inviterai à aller le consulter. Où on publie des données à la fois avec une vue d'ensemble. On compare la situation entre les trois fonctions publiques, mais aussi entre la fonction publique et le secteur du privé. On fait des analyses territoriales, on parle beaucoup du plafond de verre, donc c'est les chiffres que je vais vous présenter essentiellement aujourd'hui. On parle aussi des écarts de rémunération, parce que le statut n'est pas protecteur, au contraire de ce qu'on pourrait croire par rapport aux écarts de rémunération. Et pour terminer, on parle également de tout ce qui est accès aux formations et conditions de travail. Donc vous pouvez laisser voilà, cette slide-là. Donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible et de ne pas trop vous inonder de chiffres. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que globalement, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Donc ce sont les diagrammes que vous voyez dans mon dos. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une part plus importante de femmes en études supérieures. Mais vous le voyez, en bas du graphique, on voit que c'est moins vrai pour les filières techniques, en particulier sur les ingénieurs, puisqu'aujourd'hui, donc là c'était 2020-2021, on avait moins de 30% des ingénieurs qui étaient des femmes. Donc mécaniquement, comme la transition aujourd'hui dans nos collectivités est encore portée sur l'aspect technique par des ingénieurs, forcément on retrouve à nouveau cette séparation-là. On voit aussi qu'il y a une limite sur les classes préparatoires. Les femmes sont un peu moins présentes dans les classes préparatoires. Mais sinon, sur l'ensemble de l'université, donc on voit que les femmes vont plutôt à l'université, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Et ensuite, si vous regardez l'autre graphique, ça porte vraiment sur la fonction publique territoriale. À nouveau, on voit que les femmes sont plus diplômées que les hommes, puisque 57% des femmes de la fonction publique territoriale ont un niveau supérieur au bac, et donc 34% ont un diplôme du supérieur, alors que les hommes, c'est 51%. Donc on voit qu'on a le potentiel, on a des femmes diplômées, et donc elles pourraient tout à fait être légitimement sur des fonctions de direction, a fortiori également sur des questions de transition écologique. Alors, on a regardé aussi la question des concours A+. Donc là, vous voyez qu'il y a une vraie disparité de réussite avec des années, on va dire, en pic et en creux. Si je me concentre sur le concours d'ingé-chef, qui, encore une fois, concerne plus les métiers liés à la transition, on voit qu'on a eu donc une diminution de la part de femmes candidates. Donc ça, ce sont des chiffres que je vous donne. En 2022, on n'avait que 26% des candidats qui étaient des femmes, contre 36% en 2021. Et le taux de réussite a été moins bon, on est passé de 40% à 30%. Donc mécaniquement, là aussi, moins de lauréates, puisque vous le voyez, sur l'édition 2022, on a eu 32% seulement de femmes lauréates du concours d'ingé-chef. On le voit sur la filière administrative, chez les administrateurs territoriaux. Là, on a eu une année 2022 avec plutôt une forte proportion de femmes lauréates, 65%. Et on voit un repli ensuite en 2023 et qu'on retrouve également sur l'examen professionnel. Donc là aussi, il y a une disparité entre le niveau de qualification, surtout pour la filière administrative, puisque on voyait que pour les ingénieurs, c'est plus faible, et la réussite des femmes au concours A+. Donc si je vous donne tous ces chiffres-là, c'est qu'ils corroborent aussi des chiffres qui ont été donnés par les élèves dans le rapport. Et en effet, on confirme bien que potentiellement, on a un effet concours qui explique le sujet lié à la transition. Et donc, on a aussi un effet filière, puisque par rapport à ce que je viens de vous indiquer, si on se concentre donc sur la filière technique, aujourd'hui, on n'a que 41% de la filière technique qui est composée de femmes. Et ce sont les données publiées les plus récentes, puisqu'elles datent de 2021. Donc ça s'explique effectivement par des facteurs antérieurs à l'entrée dans la fonction publique territoriale, bien liés à l'éducation. On le sait, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'accès des petites filles et donc des femmes aux filières scientifiques et techniques. Et donc, ça se répercute sur les diplômes et sur les formations qui sont ensuite suivies. Et à contrario, il y a une étude du CNFPT qui commence à remonter à 2016, mais qui montrait qu'on avait une énorme concentration et donc une forte spécialisation des femmes et une faible mixité de certains métiers, puisque 80% des femmes se concentrent dans 5 métiers territoriaux, bien évidemment, dans l'éducation, dans le social, dans la santé. Je ne vous apprendrai rien, j'imagine. Donc ensuite, si on regarde le plafond de verre, c'est là où on peut dire que oui, il y a peut-être une spécification dans la transition par rapport à ce que je viens de vous indiquer, l'effet filière, l'effet diplôme, l'effet concours. Néanmoins, on retrouve cette difficulté-là plus globalement sur les postes à forte responsabilité. Donc encore une fois, le graphique qui dégringole vous montre qu'on a le vivier. Dans la catégorie A, on a une prépondérance très forte des femmes, puisque 69% de la catégorie A, ce sont des femmes. Dans la catégorie A+, ça diminue, on passe à 52%. Et alors, si vous regardez ensuite la strate des dirigeants, donc tout confondu, DGS, DGA, DGST, on est à 39%. Donc là aussi, la plus forte proportion de femmes, ce sont dans les postes de DGA. En moyenne, vous avez 45% de femmes dans les postes de DGA, 42% chez les DGST. Et si vous regardez les postes de DGS, ça tombe à 24%. Donc nous, ce qu'on a pu regarder, et ce n'est pas Dirigeantes et Territoires seul qui le dit, c'est bien par rapport à des études qui sont publiées, c'est que le plafond de verre aujourd'hui, il est très multifactoriel. Bien évidemment, les stéréotypes de genre, une représentation encore du pouvoir qui porte sur des normes dites masculines. On a toujours cette question de la culture du présentéisme qui fait que les femmes peuvent aussi être soupçonnées ou se censurer de prendre des responsabilités dès lors qu'il y a des engagements familiaux notamment. On observe aussi qu'on a encore une grande partie d'annonces qui sont rédigées exclusivement au masculin, en particulier sur des postes à forte responsabilité. Et le dernier frein aussi que l'on constate, c'est que les femmes s'autorisent beaucoup moins à actionner des réseaux professionnels. Souvent, les femmes font réseau sur du temps personnel et pas sur du temps professionnel, là où les hommes vont faire réseau sur du temps professionnel. Donc, moins de réseau égale moins d'accès aux postes qui vont se libérer, puisqu'on le sait, ce sont des informations que l'on a plutôt par cooptation ou qui circulent avant la publication des postes. Donc, au passage, c'est l'une des raisons d'être de Dirigeantes et Territoires. Donc, n'hésitez pas à adhérer. Ça, c'est dit. Et pour terminer, donc ça aussi dans l'étude, les élèves pointaient la question de la place des femmes dans la transition selon la typologie de collectivité. Et en fait, les constats de l'étude sont partagés en général. C'est-à-dire que ce que disait l'étude, c'est que dans les départements, on voyait qu'il y avait un repli de la part des femmes sur les postes de transition. Et en fait, si vous regardez, donc c'est le deuxième paragraphe, les départements aujourd'hui concentrent 20% des effectifs de la territoriale. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est les plus féminisées, c'est les collectivités qui ont le plus de femmes, de par, là encore, les compétences, l'effet filière et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, on a 65% de femmes qui composent les effectifs des départements. Et quand vous regardez, c'est la collectivité qui a le plus faible taux de féminisation des postes de DG, puisqu'on est à un peu plus de 12%. Il y a eu une mise à jour de ces chiffres-là dont j'ai pris connaissance, et le chiffre diminue encore, il n'augmente pas. Donc ça pose vraiment la question du plafond de verre. Les régions, à contrario, qui étaient citées aussi dans l'étude comme plutôt les bons élèves de la féminisation des postes de transition, là aussi, donc, c'est moins d'effectifs dans les régions, on le sait, hein, 7% des effectifs totaux de la fonction publique territoriale. Un effectif moins féminisé, là aussi, ça s'explique historiquement par les compétences des régions, 59% de femmes dans les effectifs. Et pour autant, c'est là où on a le plus fort taux de féminisation des postes de DG, avec un peu plus de 31%. Sur les communes et interco, vous le savez, c'est un petit peu plus panaché. Donc là, c'est là où on a le plus d'effectifs, 73% des effectifs de la territoriale. Et en gros, plus la collectivité est importante, moins il y a de féminisation des postes de DG, en particulier sur les métropoles où les effectifs sont de base moins féminisés, alors que là encore, dans les catégories C, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui composent cette strate de collectivité.
Merci pour ce premier éclairage quantitatif. Peut-être plus globalement, justement, est-ce que le rapport va dans le sens de ce que vous avez pu observer, par exemple, sur l'organisation en silo dans les collectivités ou ce genre de choses au sein de dirigeants des territoires ?
Oui, alors le rapport, de toute façon, je me permets de le dire, est vraiment très intéressant puisqu'il met la focale sur un sujet qui est quand même un enjeu majeur pour nos collectivités aujourd'hui, le pilotage de la transition. Et effectivement, ce qu'on peut ajouter vraiment comme analyse complémentaire et qui est dit dans le rapport, mais que je me permets d'approfondir, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi le sujet du management de la transition dans nos collectivités. Encore une fois, les collectivités, beaucoup, alors toutes ne le font pas, mais beaucoup organisent le pilotage de la transition plutôt en silo. Vous avez une direction ou une DGA qui a en charge la transition. On va retrouver beaucoup d'ingénieurs et donc, de facto, on a ce biais de genre puisque les femmes auront moins de place. Donc, la question, et le CST forme beaucoup là-dessus, c'est d'avoir une approche systémique et donc de se dire que finalement, dans les collectivités qui pilotent la transition autrement, par exemple des missions rattachées au DG ou en tout cas qui portent cette approche transversale, alors on va retrouver une plus forte féminisation des postes dans la transition écologique.
Et concrètement, est-ce que vous auriez des exemples un peu de collectivités où il y a un pilotage différent qui s'est mis en place et où ça a bien fonctionné ?
Donc on vous a dit que je venais de Montpellier, donc je vais parler de Montpellier, normal. Effectivement, on a à Montpellier une mission qui s'appelle mission transition énergétique et climatique, qui est donc directement rattachée au directeur général des services. Et en fait, cette mission, elle a vraiment vocation à faire vivre la transversalité. Donc, elle pilote le PCAET sur son volet externe et interne. Et on a bien évidemment des experts dans chacun des pôles avec qui, en fait, cette mission est en lien. Et en fait, si je la cite, c'est qu'aujourd'hui, c'est une mission assez conséquente parce qu'on a une politique assez volontariste sur Montpellier. On a 11 agents qui composent la mission, 9 femmes, 2 hommes. Et on a un quasi-équilibre puisqu'on a 5 personnes issues de la filière administrative et 6 de la filière technique. Donc comme quoi c'est possible de piloter la transition pas que par une approche technique. Et l'autre exemple que je voulais citer, c'est également la collectivité de Clermont-Ferrand, donc la ville de Clermont-Ferrand. Donc déjà, en profiter pour vous dire que c'est une femme qui est DGS de Clermont-Ferrand. Et je trouve que ce qu'elle a mis en place, c'est vraiment riche d'enseignement puisqu'elle a voulu justement porter une politique très forte de transition en lien avec les élus, bien évidemment, et impliquer les agents. Et donc elle a mis en place une convention d'agents. Donc ils ont une habitude de convention citoyenne. Donc quand on conduit ce type de convention, en fait, on panélise. Donc ils ont panélisé, ils ont tiré au sort des agents et donc ils ont voulu respecter un principe de parité, de représentation de toutes les strates hiérarchiques, de toutes les filières. Donc de base, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et ces agents ont vraiment pour mission de faire des propositions pour que la ville de Clermont-Ferrand pilote la transition. Et en plus de ça, elle a une mission qui lui est rattachée en propre avec un cabinet qui l'accompagne pour justement conduire et superviser l'ensemble de la démarche. Donc elle en parlerait bien mieux que moi, mais je trouvais ça très intéressant parce que là, vous avez une approche où justement on évite les biais de genre, on évite les biais qu'on travaille la transition qu'avec des cadres. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt intéressant de ce point de vue-là.
Merci beaucoup pour ces éléments. Peut-être pour poursuivre un petit peu justement sur la question des biais de genre. Ève, finalement, comment l'écoféminisme qu'on évoque déjà là dans cet échange se traduit concrètement dans les politiques publiques de transition environnementale ? Qu'est-ce que vous avez pu observer, notamment dans l'étude ?
Alors, en fait, l'écoféminisme, c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu parfois, on va dire, dans un contexte plutôt politique, mais qui est un terme qui est issu plutôt de la sociologie politique et qui a de multiples facettes, mais dont nous, on a retenu une compréhension plutôt globale, c'est-à-dire l'interaction entre les problématiques environnementales et de transition et l'égalité femmes-hommes. Utiliser ce concept, ça nous a permis de réellement penser l'ensemble des interactions, donc déjà sur, bien évidemment, qui dirige les politiques de transition, comme on a pu largement évoquer, mais aussi comment est-ce que ces politiques de transition impactent les usagères plutôt que les usagers. Donc, le premier constat qu'on a pu faire à ce propos, c'est que les politiques de transition n'impactent pas les usagères de la même manière qu'elles impactent les usagers. À deux titres. Premièrement, c'est sur la question des changements comportementaux que demande la transition. Les femmes ont tendance à être plus impactées. Donc, tout d'abord, sur la question des petits changements du quotidien, comme le tri des biodéchets, les femmes ayant encore une part prépondérante dans les tâches du quotidien, les tâches ménagères, elles vont avoir tendance à prendre cette charge. Et nous, ça s'est beaucoup retrouvé dans la question de tous les entretiens qu'on a pu faire. Ce sont les femmes qui adaptent en premier lieu leur comportement, que ce soit sur l'alimentation bio, sur les tri des biodéchets. Pareil, on retrouve aussi une surreprésentation des femmes dans les jardins partagés. Donc ça montre que sur ces changements du quotidien, les femmes vont avoir une charge, et a fortiori une charge mentale, plus importante. Pareil sur la question de la mobilité. C'est un sujet qu'on n'avait pas forcément perçu avant de faire l'étude, mais qui est beaucoup revenu dans les différents entretiens qu'on a pu faire. C'est qu'en fait, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes tendances de mobilité. Les femmes ont tendance à faire des plus petits trajets, notamment pour relier différents points. Puisqu'encore une fois, malheureusement, le partage des tâches n'est pas totalement égalitaire. Donc les femmes vont avoir tendance à déposer les enfants à l'école, à passer à la pharmacie, à passer faire les courses. Or, ces petits trajets ne sont pas du tout adaptés à l'offre de mobilité, puisque l'offre de mobilité est pensée selon, on va dire, le critère du trajet foyer-travail, ce qui fait que les horaires, par exemple, de bus sont souvent inadaptés à ce type de trajet. Pareil, quand on parle de mobilité douce, les femmes ne sont pas tout à fait impactées de la même manière. Quand on doit, par exemple, être en position d'aidante, que ce soit pour déposer les enfants ou pour les personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées, forcément, si les trottoirs sont inadaptés, ça veut dire que ce sont les femmes qui vont porter ce poids d'accompagner ces mobilités piétonnes. Pareillement, sur la question du vélo, déjà, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la question de la sécurisation, déjà parce que l'harcèlement est toujours présent, y compris quand on est à vélo, et aussi parce que, bah, pareil, si elles ont tendance à avoir un petit avec elles, elles sont plus sensibles à la question de la sécurité. Donc ça, c'est une première impact sur les usagères. Un deuxième, c'est la question des politiques de sobriété. Donc on a déjà pu évoquer la question assez récurrente de l'extinction de l'éclairage urbain, qui forcément renforce le sentiment d'insécurité pour les femmes. Il y a d'autres questions qui se posent. Dans certains territoires, on a pu notamment parler de la question de MAFAT à La Réunion, la charge d'aller chercher de l'eau quand l'eau n'est pas aussi disponible est souvent une charge qui incombe aux femmes. Donc la raréfaction de la ressource peut poser un risque qui est très concret et qui se constate dans certains territoires, notamment ultramarins, d'accès en fait à ces ressources essentielles. De même, la question de la sobriété foncière et du ZAN pose la question de la juste répartition du foncier. De la même manière qu'on peut faire un budget genré, on se demande pour 1 euro dépensé à qui ça bénéficie, on peut se poser la question pour 1 mètre carré artificialisé à qui ça bénéficie. De manière un petit peu caricaturale, si dans un plan de zéro artificialisation on construit 10 terrains de foot, a priori avec les biais de genre, ça bénéficiera plutôt aux usagers qu'aux usagères. Donc la question de la raréfaction de la ressource, la même manière que la contrainte budgétaire impose cette question, impose la question de la juste répartition entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est le constat aussi qu'on a pu faire dans notre analyse sur l'impact sur les usagères.
Et du coup, comment au quotidien, dans la construction des politiques publiques en collectivité, on peut être vigilant et vigilante pour éviter justement ces biais?
Alors nous, on a identifié beaucoup de bonnes pratiques parce que c'était un angle très important de notre rapport. C'était pas seulement d'avoir des constats, mais d'offrir des solutions. D'ailleurs, j'attire sur votre attention qu'on a pu imprimer la version synthétique de notre rapport avec un QR code où vous retrouverez la longue version avec l'ensemble des bonnes pratiques qu'on a pu répertorier. Donc nous, on voulait insister sur 3 axes. Déjà, c'est favoriser la place des femmes dans la prise de décision. Donc bien évidemment, on a déjà pu parler de la place des femmes dirigeantes, mais les femmes, c'est aussi les usagères. Donc pour favoriser la place des usagères dans la prise de décision, il y a plusieurs bonnes pratiques. En premier lieu, c'est leur permettre de venir. Typiquement, quand on fait des réunions publiques, avoir un système de garde partagé favorise la place des femmes. C'est notamment ce qui est mis en place à Annonay-Ronaglo. Et c'est un vrai constat. Aussi, favoriser de faire des réunions dans des endroits qui ont des sanitaires, c'est souvent une question récurrente pour les femmes. C'est la même chose pour l'accès aux jardins partagés. L'absence de sanitaires est souvent un frein aux femmes pour accéder à ce type d'endroit. C'est aussi inclure les usagères dans la prise de décision, par exemple, par le biais de comités d'usagers. Par exemple, à Strasbourg, sur la question de l'éclairage urbain, le comité de suivi, il y a une association féministe qui fait partie de ce comité. Une autre pratique qui est faite à Strasbourg et qui est très intéressante, c'est les démarches exploratoires dans l'espace public. Donc, on prend des usagères, on déambule dans la ville et on se demande où est-ce que, par exemple, le manque d'éclairage peut poser problème. Donc ça, c'est vraiment une manière d'inclure les femmes dans la transition. Ensuite, c'est repenser l'espace public. Ce qui est un peu merveilleux dans le cadre des politiques de transition, c'est qu'on peut en faire un levier d'égalité. Pourquoi ? Parce que quand on parle transition, on parle repenser les espaces. On va vouloir végétaliser, on va vouloir faire de nouveaux espaces publics. Et quand on recrée ces espaces, on peut les repenser à l'aune de l'égalité. Donc, pour repenser les espaces publics, on a pu bien évidemment parler de mobilité. Chez les mobilités, il y a tout simplement des solutions. Alors, on peut adapter, par exemple, les horaires de bus ou les horaires de tram. On peut aussi penser à certains besoins spécifiques, par exemple sur les vélos cargo. C'est ce que fait aussi la ville de Strasbourg, puisqu'on constate que c'est plutôt les femmes qui ont tendance à utiliser ce type de vélo. Donc ça aussi, ça permet de favoriser l'inclusion des femmes dans les mobilités douces. Ensuite, on a la question de limiter l'insécurité. Alors bien évidemment, il y a la question de l'éclairage. On peut plutôt favoriser les baisses de température, l'éclairage rouge qui ne nuit pas à la biodiversité. C'est ce qui est par exemple fait à La Réunion et qui permet quand même d'assurer un minimum de sécurité. Mais il y a aussi la question de favoriser les espaces ouverts qui limitent le nombre de recoins, qui permet aux femmes d'accéder à ces espaces nouvellement aménagés. Une autre piste qui est intéressante sur la conception de l'espace, enfin des espaces publics, c'est la question des cours d'école. Je pense qu'on est très nombreux dans les collectivités à avoir la question de la végétalisation. Végétaliser, c'est peut-être repenser les cours d'école et éviter le grand, on va dire, terrain de foot au milieu de l'espace et favoriser la logique en îlot pour avoir une multiplicité des usages, ce qui favorise la place des petites filles et des femmes dans l'ensemble des espaces publics. Et enfin, une autre question, c'est prendre en compte l'inégale répartition des tâches. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir, ce double tranchant de peut-être renforcer un petit peu les inégalités en se disant, on part du principe que les tâches ménagères sont faites par les femmes. D'un autre côté, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Donc, par exemple, quand on distribue des bacs sur les biodéchets, sensibiliser sur la question du juste répartition des tâches au sein du ménage, ça peut être aussi une manière de sensibiliser pour éviter que la transition soit un poids pour les femmes.
Merci beaucoup pour ces éléments. Merci beaucoup à toutes les deux. Sinon, moi, j'ai peut-être une toute dernière question pour toi, Eve. Dans l'étude, vous utilisez, enfin dans le titre de l'étude, le mot écoféminisme. Comment est-ce que ça a été reçu ou perçu quand l'étude est parue ?
Alors, ça a été perçu de manière assez contrastée. Ça a été perçu globalement de manière positive. Après, j'imagine qu'on a un petit biais que les personnes contentes viennent nous voir, les personnes un peu moins contentes ne le disent pas. Après, ça a posé question même entre nous de est-ce qu'on met écoféministe dans le titre. Et nous aussi, quand on menait les entretiens, c'était une question de est-ce qu'on commence par le terme écoféministe ou on l'amène dans un second temps. Nous, on a choisi de l'amener dans un second temps, ce qui fonctionnait plutôt bien. Il y a une perception assez militante du terme. Il y a une perception très politique du terme que nous, on a assumé. Le terme a un sens. C'est l'interaction entre la transition écologique et l'égalité femmes-hommes. C'est ce dont on traite, donc le terme existe. Après, oui, ça a pu être un peu effrayant. Je sens qu'au congrès de la ATF, on avait une personne qui était un petit peu surprise de l'utilisation de ce terme, mais je pense qu'il est essentiel parce qu'il permet aussi de déplacer la fenêtre d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'en utilisant un terme qui est militant et qui peut faire peur, ça rend très acceptable le reste du discours. Donc je pense que c'est aussi une stratégie, en fait, d'utiliser ce type de terme.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse et merci beaucoup à toutes les deux, Eve et Stéphanie, pour votre présence et vos éléments d'éclairage aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à Gaëlle pour la gestion du micro. Et puis également, merci donc à nouveau à la ATF ainsi qu'à l'INET et au CNFPT de nous avoir proposé cette belle opportunité pour mettre en avant cette étude.